Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment payer moins pour se déplacer? Un texte d'Isabelle Dubé, paru le 20 janvier 2026 dans La Presse. L'auteur et journaliste à La Presse, Alain Mekena, spécialisé en automobile, en finances personnelles et en technologie depuis 25 ans, vient de publier un guide d'outils pour reprendre le contrôle de nos dépenses en transport. Il a répondu à nos questions. La voiture est plus qu'un moyen de transport pour nombre de Québécois. C'est une promesse de liberté et d'autonomie. Pourquoi devrait-on alors changer nos habitudes de déplacement? Je parle de se déplacer sous un angle de finances personnelles pour économiser des sous. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se soucier de tout le bagage émotionnel que l'auto suscite. Cependant, je couvre le secteur du transport depuis longtemps et tout le monde devient partisan rapidement. Il y a des gens qui disent qu'il faut acheter un pick-up parce que quelqu'un, quelque part, vend des pick-up. Un autre dit acheter des vélos parce qu'il aime faire du vélo. Mais personne ne prend le parti du consommateur. J'ai voulu prendre un pas de recul pour faire un portrait le plus neutre possible des options qui existent partout au Québec, dans tous les quartiers, pour aider les gens à prendre des décisions financières conséquentes. Se déplacer en automobile coûte plus cher qu'on le pense, environ 1 000 par mois. Quels sont ces frais auxquels on ne pense pas? L'entretien, les assurances, les pneus, les coûts d'option aussi. On ne se rend pas compte, mais on prend l'auto pour aller au dépanneur. C'est de l'essence qu'on gaspille. Il y a des frais qu'on se cache. Les gens disent « une voiture électrique l'hiver, ça consomme plus d'électricité et ça va moins loin ». Mais c'est vrai aussi pour une voiture à essence qui consomme jusqu'à 20 % plus d'essence l'hiver parce qu'il faut chauffer pour alimenter plein de systèmes. Ton plein d'essence coûte pas mal plus cher que ton plein d'électricité. Vous donnez des cas précis de ménages qui peuvent réduire leur facture de transport d'une façon considérable. Pour qui est-ce que ça vaut vraiment la peine? Le meilleur exemple, c'est la deuxième voiture. Si on achète une voiture, c'est parce qu'il y a des affaires qu'on ne peut pas faire sans elle ou qui deviennent plus compliquées. Mais pour la deuxième voiture, il y a d'autres options, même pour une famille avec des enfants, qui permettent d'économiser de gros sous. Le covoiturage, l'autopartage et les communautos qui sont disponibles à des endroits qu'on ne soupçonne pas. Calculer les frais de service à la demande comme Uber, c'est étonnamment moins cher que ça en a l'air. Si on calcule froidement le coût d'une deuxième voiture qui, selon les statistiques, reste stationnée plus de 90 % du temps qu'on la possède, il y a un avantage financier à aller chercher. Vous décortiquez toutes les solutions de rechange à l'auto. Est-ce qu'il y a des options méconnues sur lesquelles on devrait miser? On devrait tous être plus grognons devant nos fournisseurs de services. Prendre un autobus au Québec, c'est un paquet de troubles. Si en plus tu veux prendre un autobus, puis un vélo, puis une auto, ça prend 3 abonnements à 3 services distincts. Il y a des exemples ailleurs dans le monde où on a intégré une seule carte d'accès. À Helsinki, en Finlande, il y a un forfait mensuel qui donne accès à tous les transports de la ville et des rabais sur les taxis et voitures de location. Si on peut prendre plusieurs moyens de transport sans friction, beaucoup de gens vont préférer ça à tout le temps prendre la voiture. Je pense qu'on devrait exiger un service simplifié parce que c'est faisable et que ça existe. Quelles sont les meilleures astuces pour réduire notre facture de mobilité? Ne pas tricher si tu veux absolument acheter une auto. Sors les vrais chiffres et compare froidement ce qui est le plus cher et moins cher. On a tendance à exagérer les exceptions. C'est-à-dire la fois dans l'année où je vais aller magasiner une table chez IKEA et avoir besoin d'un gros véhicule. La fois où les beaux-parents viendront d'Europe. Dans ces deux cas, il existe la location qui peut répondre à ce besoin, ou le service d'autopartage Turo, même s'il n'est pas toujours parfait. Autre astuce, négocier ses assurances au moins une fois par année, comme on négocie son téléphone cellulaire. C'est l'un des meilleurs moyens de réduire ses coûts sans sacrifier cette liberté présumée d'avoir son propre véhicule. C'était « Comment payer moins pour se déplacer ». Un texte d'Isabelle Dubé, paru le 20 janvier 2026 dans La Presse.
la Madeleine, au pays de la résilience. Un texte de Nathalie Collard, paru le 22 septembre 2025 dans la presse. Partout au Québec, des communautés se mobilisent pour surmonter des épreuves. Cet automne, Dialogue vous invite à en visiter quelques-unes. Première escale, les îles de la Madeleine, où notre chroniqueuse a constaté que malgré les défis qu'impose la vie insulaire, les Madelinos ne baissent jamais les bras. Par une belle soirée d'août, des dizaines de personnes sont réunies sur le terrain de la microbrasserie, à l'abri de la tempête, à l'étang du Nord. Un trio de musiciens assure l'ambiance de ce qui ressemble à un gros pique-nique familial. Les Madelinos sont réunis pour lancer la campagne de financement en soutien au rachat du phare du Cap Allwright, mis en vente par l'animatrice et productrice Julie Snyder au coût de 595 000 $. C'est le sujet de conversation de l'été aux îles. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me craint les racines, lance le compteur Cédric Landry à l'Assemblée. La mise en vente du phare de l'Échourie, à Avromaison, a eu l'effet d'un électrochoc au sein de la communauté madelinienne, qui n'a pas tardé à se retrousser les manches. Ça nous prenait un événement comme ça pour réaliser que lorsqu'on parle de la perte de notre territoire, ça comprend aussi notre patrimoine, souligne Véronique Deraspe, directrice de la Société de conservation des îles de la Madeleine, SCIM. La SCIM est un des organismes membres du comité d'acquisition collective du phare. En l'espace de quelques semaines, la communauté s'est mobilisée et au moment d'écrire ces lignes, près de 250 000 $ avaient été amassés. Le comité qui a conclu une entente de principe avec Julie Snyder pour un prix de 550 000 $ avant taxes doit trouver les centaines de milliers de dollars manquants d'ici le 15 octobre 2025. Dans mes rêves, lance Véronique Deraspe, on se créerait un fonds pour protéger d'autres perles de nos cantons. Mais pas comme ça, pas dans l'urgence, pas au beau milieu de l'été. La mise en vente du phare est loin d'être la pire épreuve qu'ont eu à surmonter les Madelinos. La liste est longue. Interdiction de la chasse aux blanchons, fermeture de certaines pêcheries, tempête, érosion des berges. L'histoire des îles de la Madeleine rime avec adversité, mais aussi avec ingéniosité. Connaissez-vous l'histoire du ponchon? Me demande le député péquiste Joël Arsenault, un natif de l'endroit. En 1910, après la rupture de l'unique câble qui les relie au continent, les Madelinos mettent à l'eau un petit baril muni d'une voile dans lequel ils déposent des messages. En deux semaines, le baril se rendra contre vents et marées jusqu'à l'île du Cap-Breton. Cette histoire, insiste M. Arsenault, montre à quel point la résilience est inscrite dans l'ADN des Madelinos. La nécessité est mère de l'invention. En septembre 2022, la tempête Fiona frappait les îles. Sur la grave à Havre-Aubert, les dégâts étaient considérables. Trois ans plus tard, non seulement les commerçants sont revenus et ont consolidé leurs bâtiments, mais de nouvelles boutiques ont ouvert leurs portes sur ce site historique. Les lieux grouillent de touristes. Il y a un avant et un après Fiona, croit Jasmine Solomon, chef de section en action climatique à la municipalité des îles de la Madeleine. La tempête Dorian en 2019, dit-elle, avait éveillé les Madelinos à la réalité des changements climatiques, car les dégâts étaient très visibles. Fiona a eu un impact au niveau réglementaire. Ça a déclenché des discussions avec différents ministères pour qu'on agisse de façon durable. Il y a deux ans, la communauté maritime des îles de la Madeleine, l'agglomération qui comprend les municipalités des îles et de Grosse-Île, a donc déposé son cadre d'intervention en érosion et submersion côtière. Et depuis, 31 sites sont surveillés de près. Parallèlement, on a mis en place diverses mesures pour ralentir l'érosion. Je visite les îles depuis 20 ans et j'ai vu le paysage changer au cours des dernières années. À commencer par les enrochements et les recharges de plages à la grave, après le passage de Dorian, où on observe un retour à la biodiversité plus rapide que prévu. Se réjouit Mme Solomon. Une équipe de 50 scientifiques suit l'évolution des différentes recharges partout sur le territoire des îles, m'explique-t-elle, et on pense installer des caméras pour surveiller d'encore plus près les effets des tempêtes. Madame Solomon est enthousiaste. Les projets se multiplient. Jusqu'en 2030, le ministère du Transport et de la Mobilité durable, TMDQ, construit des recharges à des endroits particulièrement vulnérables, comme la Martinique et Pointe-aux-Loups. Plutôt que d'importer des galets de Terre-Neuve, comme pour la grave, on récolte le sable directement dans la mer pour reconstruire les cœurs de dunes. Toujours à la Martinique, un projet pilote verra l'installation de tubes en géotextile remplis de sable. Ils permettront de stabiliser l'érosion et de soutenir la recharge de plages. D'archipel vulnérable, les îles de la Madeleine sont en train de devenir un véritable laboratoire pour l'adaptation au changement climatique. Quand on peut, on utilise la nature environnante pour contrer l'érosion, comme pour ces brises vagues faites de sable et de végétation qui diminuent la puissance des lames qui viennent s'écraser sur la côte. Un autre exemple? La biocalcification des falaises, un projet en attente de financement. En gros, m'explique Jasmine Solomon, il s'agirait de produire des micro-organismes qui fabriquent une fine pellicule pouvant recouvrir les falaises. Comme si on les enveloppait dans une pellicule plastique de type Saran Wrap pour réduire l'érosion. Les tests sont concluants ailleurs, affirme Mme Solomon, et la bactérie pourrait même être produite sur place. Un lieu d'innovation. Au Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes, CERMIM, un organisme qui est au cœur de l'innovation en environnement, on aimerait bien faire des îles un pôle de recherche et développement. C'est ce que m'explique Marc-Olivier Massé, directeur associé du Centre, créé en 2004 et qui compte actuellement 15 employés. On fait le lien entre la recherche, l'entreprise et la communauté et on travaille sur trois axes, la gestion des déchets, l'économie circulaire et la mer, précise-t-il. On occupe beaucoup le golfe, ajoute le géographe de formation en me montrant un des deux robots sous-marins télécommandés capables de plonger à plus de 300 mètres de profondeur pour aller chercher des instruments techniques ou encore pour récupérer des casiers à crabes et à homards. Une technologie d'avant-garde qui leur amène plusieurs contrats. Le CERMIM collabore avec des chercheurs du Québec et des provinces maritimes en plus d'être en contact avec des réseaux insulaires ailleurs dans le monde. On travaille aussi avec les différentes industries pour qu'elles améliorent leurs pratiques et deviennent résilientes, souligne M. Massé. L'insularité oblige les chercheurs à rivaliser de créativité. Il faut viser l'autosuffisance sans générer trop de déchets. Ça donne des projets comme la valorisation des coquilles de mollusques, pétoncles, palourdes, etc., qui, broyées, remplacent la chaux importée aux îles pour faire baisser l'acidité des sols. C'est cette acidité qui leur donne leur belle couleur rouge. Autre exemple, un projet pilote de broyage de résidus de crabes transformés en engrais pour le jardin. Des déchets en moins au Centre de gestion des matières résiduelles de Havre-aux-Maisons, déjà sous pression. C'est à se demander si le proverbe « la nécessité est mère de l'invention » n'a pas été inventé aux îles. Attirer des gens aux îles. Tout autant que les changements climatiques, le déclin démographique inquiète le maire de la municipalité, Antonin Valiquette. Ici, m'explique-t-il, l'âge médian est supérieur de 10 ans à la médiane québécoise. Sur le continent, pour 100 personnes qui prennent leur retraite, il y a 60-70 personnes qui prennent la relève. Et les gens s'inquiètent. Aux îles, c'est 35. La communauté maritime des îles n'a pas attendu que les prévisions de l'Institut de la statistique du Québec, ISQ, se réalisent pour agir. En 2017, la communauté maritime a adopté la stratégie d'attraction des personnes, un plan pour attirer des travailleurs de l'extérieur. La cible était fixée à 100 par année. Résultat? On a attiré 920 personnes depuis 2018. Ce n'est pas loin d'un village, s'exclame le maire Valiquette, qui se félicite que la majorité de ces nouveaux Madelinos ait entre 25 et 44 ans. Une bonne nouvelle, donc, qui pose toutefois un autre problème, l'habitation. On les met où, ces gens-là? Demande le maire, rappelant une évidence. Aux îles, on ne peut pas s'étaler comme sur le continent. S'il y a un endroit où je ne pensais pas entendre parler de densification, c'est bien ici. Or, comme partout au Québec, les îles de la Madeleine sont soumises à la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire du gouvernement québécois. Il faut donc densifier. Le CISSS vient d'obtenir une dérogation pour construire un édifice à 3 étages de 60 logements. Un autre grand employeur construira des dizaines de logements à Cap-aux-Meules où un projet d'éco-quartier se concrétise tranquillement. La municipalité a également adopté des règlements, controversés, il faut le dire, pour mieux encadrer les résidences touristiques. Bref, là encore, on prend le taureau par les cornes, même si construire des logements aux îles coûte 60 % plus cher que sur le continent. On dirait que peu importe le défi que le destin envoie aux Madelinos, ils s'en emparent et font du judo avec. Si ce n'est pas de la résilience, je ne sais pas ce que c'est. Les îles de la Madeleine en bref. Population. 12 654 habitants. Variation, plus 1,4% par rapport à 2016. Âge moyen, 49,2 ans. Superficie, 202 km². C'était Île de la Madeleine, au pays de la résilience. Un texte de Nathalie Collard, paru le 22 septembre 2025 dans la presse.
Où en sommes-nous avec la diversité à Montréal? Un texte de Gérard Bouchard, paru le 31 janvier 2026 dans Le Devoir. Il est urgent de passer à l'action si l'on tient à établir le statut de la métropole comme ville francophone. Dans un texte du 25 septembre 2021, j'étais intervenu sur ce sujet, mais il me paraît utile de faire le point quelques années plus tard. Avec l'arrivée de Mme Martinez Ferrada à la mairie de Montréal, il est permis d'espérer que les efforts de la précédente administration pour combattre le racisme et les diverses formes de discrimination vont se poursuivre. On sait que l'avenir culturel du Québec, comme société francophone, dépend beaucoup du dynamisme montréalais. Orchestrer la vie ethno-culturelle. Il est bon de rappeler que l'intégration des immigrants reste un processus à double voie. La société d'accueil TIR, elle, profite du contact avec les nouveaux venus. En retour, on doit reconnaître l'apport économique et culturel de l'immigrant à sa nouvelle patrie. À Montréal, cet apport n'est pas reconnu à sa juste valeur, faute d'une politique concertée favorisant l'intégration. Le politologue David Carpentier en a montré les conséquences dans son livre « La métropole contre la nation, la politique montréalaise d'intégration des personnes immigrantes, 2022 ». L'auteur soutient que les autorités montréalaises se sont détournées des principes de l'interculturalisme, ouvrant ainsi la voie au multiculturalisme canadien. Sans concurrence, ce modèle, écrit-il, est discrètement à l'œuvre dans la métropole. Un organisme très actif, mais peu écouté. Dans l'ensemble, peu de choses ont changé. En témoigne le Conseil interculturel de Montréal, CIM, un organisme consultatif dont la Ville s'est dotée en 2003 pour formuler des avis et propositions visant entre autres à concevoir et mettre en œuvre une politique interculturelle. Selon des informations provenant de diverses sources, cet organisme n'a pas l'écoute de la Ville, même s'il est très actif. Ses rapports annuels et ses mémoires sont substantiels et rigoureusement structurés, notamment au sujet du besoin d'orientation plus claire sur le modèle à promouvoir. Ces textes restent cependant la plupart du temps lettres mortes. Un conseiller de première ligne écrivait que rien n'a été fait pour relayer les propositions et les questions du CIM. Toute la documentation que j'ai consultée sur le sujet est accessible sur Internet. Je signale tout particulièrement un document synthèse publié par le CIM en 2019 qui énonce d'une manière très cohérente les principes et les modalités d'une véritable politique interculturelle adaptée à la réalité montréalaise. Le document est assorti de diverses recommandations propres à orienter concrètement l'action des dirigeants. Selon mes sources d'information, cette initiative n'a pas eu d'effet. On ne sait pourquoi. On trouvera aussi sur Internet les rapports annuels d'activité du CIM depuis 2003-2004. Chacun présente de nombreuses formules destinées à éclairer les divers aspects de la diversité montréalaise, le tout convergent vers une démarche générale intégrée. Au fil des ans, on voit donc se déployer dans cet organisme un ensemble de réflexions, d'expériences et de réalisations témoignant d'efforts méritoires de la part d'équipes enthousiastes de bénévoles dont la contribution est bien mal récompensée. Il y a là une somme d'idées prometteuses et de savoirs concrets restés inexploités. On déplore qu'un tel bouillonnement d'idées ne trouve pas preneur auprès des autorités métropolitaines. Le CIM poursuit néanmoins ses efforts et attire des membres compétents et dévoués, des bénévoles avec des parcours remarquables issus de divers secteurs du travail et de la vie institutionnelle québécoise. En dépit de son modeste budget et d'un contexte peu favorable, l'organisme est parvenu à entretenir des liens de coopération avec divers acteurs au Québec, au Canada et à l'étranger. Le CIM favorise l'interculturalisme comme cadre d'inclusion, mais pour des raisons difficiles à comprendre, l'idée reste lettre morte. On en vient à penser qu'au fond, sans le déclarer publiquement, des élus ont une préférence pour le multiculturalisme ou simplement pour le laisser-faire, ce qui s'équivaut pratiquement dans le contexte montréalais. La ville devrait s'engager dans un débat public pour affirmer son choix et articuler sa vision. Elle ne le fait pas. Une ressource sous-exploitée. La ville de Montréal a été admise en 2011 comme membre du prestigieux programme des cités interculturelles piloté par le Conseil de l'Europe. C'était dans la foulée d'un symposium international que j'avais organisé avec une grosse équipe. J'avais d'abord plaidé auprès des autorités du Conseil de l'Europe, puis auprès du maire Gérald Tremblay, qui s'était facilement laissé convaincre. Je ne veux pas exagérer mon mérite. Le terrain avait déjà été bien préparé par de proches collaborateurs et collaboratrices du maire et d'autres experts. Le moment était important et on s'en réjouissait de part et d'autre. Ce grand réseau international des cités interculturelles, unique en son genre, a pour mission d'aider les villes participantes à échanger sur leur mode de gestion de la diversité tout en mettant en avant les principes interculturels. Chaque membre y trouve à s'instruire à même les expériences originales des autres membres, en plus de faire valoir les siennes. Une sorte d'émulation s'engage ainsi dans la collaboration. Mais une fois passé le moment de réjouissance, d'une manière inattendue, la ville ne s'est pas engagée à fond dans le projet. Elle s'en est même en grande partie détournée pendant plusieurs années. En 2011, elle avait déclaré sa volonté de s'affirmer comme une ville exemplaire. Néanmoins, lors d'une visite d'évaluation par des envoyés du réseau des cités interculturelles en 2019, Montréal a eu droit à quelques critiques, mais aussi à des félicitations, et ce, à la grande surprise des personnes bien informées de ce dossier. La ville avait présenté un rapport synthèse des plus convaincants de ses activités. Encore là, rien de significatif n'a été réalisé depuis. Des membres actuels du CIM m'ont informé récemment qu'ils n'avaient jamais entendu parler du programme des cités interculturelles. S'ajoutent à ces difficultés des rapports plutôt tendus entre Montréal et le gouvernement québécois. C'est une autre source d'empêchement qui ne sera pas abordée ici. Mais on voit qu'il est urgent de passer à l'action si l'on tient vraiment à établir le statut de Montréal comme ville francophone. C'était « Où en sommes-nous avec la diversité à Montréal? » Un texte de Gérard Bouchard, paru le 31 janvier 2026 dans Le Devoir.
Quatre nouveautés à Montréal. Un texte de Martine Letarte, paru le 29 septembre 2025 dans La Presse. Que ce soit dans le domaine de la santé, des affaires, de l'environnement ou même de l'art, le monde change. Nos préoccupations et nos besoins également. Les programmes universitaires se développent et s'ajustent en conséquence. Voici quatre nouveautés dans quatre universités montréalaises. S'ajuster à l'industrie musicale. Le baccalauréat en musique de l'Université Concordia s'adapte aux changements de l'industrie. De nouveaux cours sont offerts en production musicale qui abordent les aspects techniques de l'enregistrement, du mixage et des stations audio-numériques. Un nouveau cours a aussi été créé en gestion de carrière et promotion. L'automne prochain, on ajoutera à la spécialisation en composition le volet production musicale. Les personnes qui veulent s'y inscrire peuvent désormais soumettre un portfolio de chansons ou de musique de film, ainsi que de jeux vidéo. Ces types d'œuvres seront également intégrés dans des cours théoriques et d'histoire, tout comme la musique pop et les musiques du monde. Troubles neurocognitifs majeurs. Le micro-programme de deuxième cycle sur les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, SCPD, associé à des troubles neurocognitifs majeurs comme l'Alzheimer, est maintenant offert à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Cette spécialisation vise à combler les grands besoins de personnel en première ligne pour les aînés dans les CHSLD, les CLSC et les soins de maintien à domicile, alors que le quart de la population québécoise sera âgée de 65 ans et plus en 2031. plus de 75 % des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif majeur présenteront des SCPD qui permettent d'ailleurs de prédire la rapidité d'évolution de la maladie. Le microprogramme a été créé pour les personnes ayant un baccalauréat dans un domaine de la santé et des services sociaux ou une formation connexe. Population et santé mondiale. Le nouveau baccalauréat en population et santé mondiale, offert par l'Université McGill, aborde de grands enjeux comme l'accès aux soins de santé, la préparation aux pandémies et la résilience au changement climatique. En reconnaissant l'impact des déterminants structurels et sociaux de la santé, il prépare les personnes à devenir des leaders dans la création de solutions équitables et efficaces sur le plan local et mondial. Le programme s'appuie sur les domaines interdisciplinaires de la santé publique et des sciences sociales. Il offre 5 concentrations : environnement et santé, culture, société et santé, régime alimentaire, mode de vie et parcours de vie, système, politique et gouvernement, ainsi qu'innovation et leadership. Sous la loupe de l'éthique. Le nouveau certificat de premier cycle proposé par l'Université de Montréal offre que l'éthique se glisse dans plusieurs sphères concrètes de nos vies. Par exemple, un cours se penche sur les différents défis éthiques soulevés par les applications de l'intelligence artificielle, comme la surveillance, la technologie persuasive, les biais algorithmiques et la prise de décision automatisée. Un autre porte sur les débats contemporains en éthique et en philosophie politique de l'environnement, comme la libération animale et l'écocentrisme, qui considèrent que tous les êtres vivants possèdent une valeur intrinsèque, qu'ils soient utiles ou non à l'homme. Votre curiosité pourrait aussi être piquée par le cours qui se penche sur le boulot, son lien avec l'épanouissement de soi, les théories post-travail et du travail doté de sens. C'était 4 nouveautés à Montréal. Un texte de Martine Letarte, paru le 29 septembre 2025 dans La Presse.